Je suis heureux, mais un peu inquiet quand même. Je suis dans mon église. Comme on vient de le dire, n'est-ce pas, il y a deux pasteurs qui sont à l'origine de cette église. C'est le papa de Colia et Roger Lenoir. Mais voyez-vous, chez nous, on déplace les pasteurs. Et c'est très bien dans un sens, mais dans l'autre sens, c'est parfois un inconvénient. Roger était le dernier au moment où on a acquis le terrain. Il fallait construire. Et à ce moment-là, il est parti à Liège. Alors, on a fait venir un autre pasteur, je ne donnerai pas son nom, de toute façon, il est décédé. Et il a dit, moi, je viens pour Bruxelles, je ne veux rien avoir avec Olué. Bof. Alors, évidemment, l'église de Bruxelles existait. Il y avait trois anciens, dont moi, hein, les autres sont décédés aussi, malheureusement. C'est ça le problème quand on vieillit. Ça s'éclaircit de tous les côtés. Alors, la fédération m'a dit, écoutez, vous ne pouvez pas vous occuper de bâtiments. J'ai dit, écoutez, moi, je suis directeur d'école, moi, j'ai mes occupations. Ce n'est pas facile, ce que vous me demandez là. Oui, mais il ne faut pas venir souvent, vous venez deux fois par semaine pour voir comment ça fonctionne. Et c'est comme ça, donc, on a fini par construire ce bâtiment. Je vous passe tous les inconvénients. Et en 56, donc, nous avons eu une première ouverture, je dis une première ouverture, avec 40 membres qui avaient bien voulu quitter l'église de Bruxelles-Centre pour recréer une nouvelle communauté ici. Donc c'était 40 personnes adultes, sans compter les enfants. Et alors, en 77 a eu lieu la grande inauguration. Nous avons fait appel au bourgmestre, aux curés, deux curés d'ici. Il y avait des églises protestantes, nous les avons invités, et même les autorités religieuses supérieures, y compris l'archevêque. Bon, il n'est pas venu, bien entendu, mais il nous envoyait un télégramme de félicitations. Voyez-vous, nous avons touché tout le monde, et c'est comme ça que cette église s'est reformée. Je tiens à vous dire que mon embarras, c'est que je suis dans mon église, mais je ne suis pas dans mon église. Pourquoi ? Parce que, bon, les années ont passé, et tous ceux qui me sont devant moi maintenant, à part deux ou trois, sont mes enfants et petits-enfants en âge. Mais ça me console parce que, vous savez, le grand Jean qui a écrit l'Apocalypse, il avait 95 ans quand il a écrit l'Apocalypse. Alors ça m'encourage. Alors, frères et sœurs, le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui est assez non canonique. Je vais vous dire certaines choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. D'abord, la première chose qui ressort de mon expérience, c'est que peu d'églises adventistes connaissent l'origine de leurs églises. Demandez, partout en Belgique, mais c'est en France, ailleurs, c'est la même chose, demandez à la secrétaire d'église, depuis quand est-ce que l'église existe ? Motus et bouche cousue. On ne connaît rien. Or, c'est une erreur. Il est bon de savoir d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Lorsque vous lisez la Bible avec beaucoup d'attention, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, vous avez des textes qui font appel au passé. Souviens-toi. Combien de fois trouvez-vous c'est une demande ensemble. Souviens-toi de quoi ? Oh, de différentes choses. Nous, quand on entend « souviens-toi », eh bien, c'est du sabbat, bien entendu. Non. Je vais m'écarter de cela. Une chose est certaine, c'est que on peut se souvenir en tant que peuple d'Israël, on peut se souvenir en tant qu'église chrétienne en général, et évidemment aussi en tant qu'église adventiste depuis sa création dans les années 1862, quand la conférence générale a été vraiment établie. Alors, il est bon de savoir que le peuple d'Israël, depuis Abraham, enfin, pas encore le peuple à ce moment-là, mais depuis Abraham jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, définitivement, le deuxième temple par les Romains, en l'an 70 de notre ère, c'est un chemin excessivement chaotique, difficile, avec beaucoup de retours en arrière. Et les grands prophètes, et notamment Jérémie, lancent un appel de la part de Dieu, bien entendu. Qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait? Allez voir à Chypre, allez voir en Arabie. Je prends les termes d'aujourd'hui. Hein. La Bible, ce sont d'autres mots, mais enfin, c'est bien Chypre et c'est bien Arabie. Allez voir là. Eh bien, ce sont des païens. Et ceux-là n'abandonnent pas leur Dieu. Et vous, vous avez abandonné le vrai Dieu. Vous vous rendez compte que c'est dur, hein? C'est dur d'entendre cela. L'Église chrétienne n'a pas fait mieux. Ah, quand on pense à la première Église à Jérusalem, tous d'un seul cœur, d'une seule âme, on vendait ses biens, on le distribuait aux pauvres, on était tous ensemble, ah, on chantait des cantiques, on était remplis du Saint-Esprit. Oui. Mais ça n'a pas duré, vous savez. Ça n'a pas duré. L'Église, d'abord, a eu beaucoup de peine à se développer au sein du judaïsme. Et puis après, il a fallu s'ouvrir aux soi-disant païens. Et l'Église s'est développée en sous-terre, si je peux dire. L'Église chrétienne a été persécutée parce qu'il fallait adorer l'empereur romain comme un dieu. Et ça, nous ne pouvons pas faire. Les Juifs ne pouvaient pas le faire non plus. Ce qui fait qu'ils ont dû se cacher. Les persécutions n'ont pas eu lieu partout. C'est une erreur de croire que dans tout l'Empire romain, n'est-ce pas, on persécutait. Ce n'est pas vrai. Disons que pendant 3 siècles, l'Église s'est développée et des textes le montrent du Nouveau Testament, même dans la maison de César, il y avait des chrétiens. Et puis là, ça se gâte. Ça se gâte. Je vous parle d'histoire, hein, c'est nécessaire. Ça se gâte pourquoi? Parce que un empereur très intelligent, Constantin le Grand, d'ailleurs un de chez nous, il était né à Trévire, donc c'est ici, à Trèves, hein, dans la tribu des Trévires, et il était devenu romain par son éducation. Et sa femme était chrétienne. Il se dit, mais le christianisme, lui, on a beau le persécuter, il parvient à percer. Et d'un autre côté, parallèlement à cela, le paganisme dégringolait. Alors, on ne s'occupait plus des cérémonies païennes, etc. Alors, lui, il a mis ça ensemble. Il a dit, moi, je deviens le chef de l'Église, tout en n'étant pas chrétien. Je deviens chef de l'Église. Et alors, le concile de Nicée, un grand concile, va être conduit par un païen. Vous vous rendez compte? Le diable est excessivement intelligent, le diable. Alors, on a combiné les fêtes païennes avec des cérémonies chrétiennes, d'où la messe catholique ou orthodoxe. Le sabbat n'a pas été combattu, non, on ne va pas toucher au sabbat, mais on va dire que le dimanche est un jour de soleil, un jour de lumière. Et les gens aiment bien cela. Ce qui fait qu'on a glissé lentement, très lentement, c'est l'histoire de la grenouille, hein, que l'on met dans de l'eau froide, et puis on fait chauffer petit à petit, elle ne se rend pas compte jusqu'au moment où elle cuit, carrément. L'Église chrétienne a été cuite, c'est ça. Donc, à partir du IVe siècle, introduction du dimanche, introduction, n'est-ce pas, d'un tas de doctrine totalement étrangère à la Bible. Et c'est ainsi donc qu'on arrive à notre époque, et je passe sur tous les détails, vous en connaissez aussi bien que moi. L'histoire. Mais l'important, c'est notre histoire. Notre histoire. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici ce matin? Quelle est notre vision de l'avenir par rapport à mon passé? Alors je reviens ici au texte qui vient de vous être lu. Jésus parle dans une synagogue. Et là devant lui, des Juifs. Des Juifs qui connaissent l'Écriture. Attention! Parce que, vous savez, quand on dit, n'est-ce pas, qu'à la Pentecôte, il y a eu 3000 baptêmes d'un coup. Et puis par après encore des milliers. On dit, bah, c'est fantastique cela. N'oubliez pas que les apôtres prêchaient, non pas à des païens, mais ils prêchaient à des Juifs qui connaissaient l'Écriture, il fallait leur ouvrir. Alors quand la conférence générale me dit, n'est-ce pas, j'ai lu, hein, c'est pas de blague ça, hein, qu'en Mongolie aujourd'hui, l'année passée, il y a eu 1000 baptêmes de Mongols. Écoutez-moi, je suis excessivement sceptique, parce que je me demande comment ces gens-là, qui n'ont aucune notion du christianisme, on peut les baptiser comme ça tout d'un coup. Je regrette d'être très franc, mais moi j'aime bien les conversions lentes, solides. Alors, ici, nous sommes devant une assemblée, avec Jésus donc à Jérusalem, et Jésus dit des choses inadmissibles. Si vous ne mangez pas, ma chère, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Alors là, non, c'est pas possible. Cet homme-là, il a perdu la tête. Et alors, le texte le dit, beaucoup de ses disciples le quittèrent. Alors, je voudrais faire une remarque. Lorsque Jésus commence son ministère, à l'âge de 30 ans, il prend la succession de Jean-Baptiste, son cousin. Et il a beaucoup de succès, et il y a beaucoup de gens, juifs, attention, hein, qui le suivent. Ce sont des disciples. Le mot disciple, c'est élève. Et alors, à un moment donné, parmi ses disciples, il va choisir 12. Après une nuit de prière, et il avait certainement prié avant, bien entendu, pour savoir qui il devait choisir. Bon, le problème, c'est évidemment Judas, mais enfin, ce n'est pas mon sujet de ce matin. Alors, ici, les disciples, donc ceux qui connaissaient Jésus déjà, quand ils entendent parler, n'est-ce pas, qu'il faut manger et boire, etc., comme sa chair et son sang, ils sont scandalisés. J'aimerais bien que vous soyez à ce moment-là, que vous oubliez ce que vous êtes aujourd'hui, et que vous êtes tout d'un coup tous des Juifs. Vous connaissez la Bible, l'Ancien Testament, bien entendu, et vous entendez une parole pareille. Soyez honnête, hein, je vous demande pas de lever la main, mais soyez honnête, que feriez-vous? Que diriez-vous? Il est plus que probable que vous sortiriez aussi. Et c'est à ce moment-là que Jésus vient, que Jésus dit à ses 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et c'est ça que je voudrais vous dire ce matin. Vous, aujourd'hui, ce matin, voulez-vous être fidèle à Jésus ou voulez-vous vous en aller? Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est là que Pierre, n'est-ce pas, qui résume l'idée de ses compagnons. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alors, donc, c'est à nous à prendre notre responsabilité. Excusez, parce que j'ai encore besoin, évidemment, de notes. Faut-il partir, ne faut-il pas partir, dit Jésus. Donc, dans les textes que nous lisons, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau, les apôtres, comme les prophètes du temps de Jésus, d'avant Jésus, ont fait appel à leur passé. Pourquoi êtes-vous tombés? Pourquoi nos pères ont-ils chuté? De notre côté, pourquoi Abraham a-t-il tenu bon? Pourquoi Gédéon a-t-il tenu bon? Et ainsi de suite. Et là, vous retombez dans l'épître aux Hébreux. Il y a eu une période où il y a eu beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui sont restées fidèles. Remarquez, le chapitre 11 d'Hébreux commence, n'est-ce pas, par Abel, le juste. Et vous connaissez la liste, hein, je ne vais pas la reprendre ici. Et alors, à un moment donné, il y a une deuxième liste. Tous ceux de la première liste, ils ont été sauvés. Mais dans la deuxième liste, non, c'est juste le contraire. Ils ont tous été crucidés. Certains même ont été sciés. Ils n'ont pas vu la fin. Abraham, il a vu la fin, hein, enfin, de sa terre, bien entendu, mais il a été exaucé, les autres également. Mais pas la deuxième partie des saints, si je peux les appeler ainsi, dont l'apôtre Paul, on n'est pas certain, le dit dans l'Épître aux Hébreux. Jésus revient là-dessus et il dit, n'est-ce pas, à un moment donné, dans le chapitre 4 de Jean, à partir du verset 19, Jésus est au bord, à la margelle d'un puits, en Samarie. Ses disciples sont partis chercher à manger. C'est le plein midi, il fait très chaud, et une femme vient chercher de l'eau, la femme samaritaine. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Étonné, bien entendu, une samaritaine et un juif qui parlent à une femme juive, à une femme qui n'est pas juive, ça ne se fait pas, ça. C'est pas correct d'abord. Et il me demande à boire. Et alors, elle dit, mais, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Hein. Il y a là un problème qui se pose à cette femme. Où devons-nous adorer? Sur le mont Garizim, comme nos pères le font? Ou bien comme les Juifs à Jérusalem? Jésus a une réponse extraordinaire. Elle est pour nous, hein. Elle est relatée pour nous. Jésus lui dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et la vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer par l'Esprit et la vérité. Donc, ce n'est ni à Garizim, ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem. Dieu est partout. Il est esprit. Vous vous rendez compte? C'est révolutionnaire, cela. Ce n'est pas parce qu'il faut venir dans une église. Non, on peut aller partout. Dieu est là avec nous. Bon, c'est mieux d'être ensemble. Nous sommes tout à fait d'accord. Et les assemblées sont nécessaires, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais l'essentiel, c'est d'être devant Dieu, seul. Et seul, on peut lui dire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on peut, avec beaucoup de joie, mais aussi peut-être avec beaucoup de tristesse. Dieu nous entend, parce qu'il est esprit. Je touche ici les rites. Oh là là! Là, je touche à un problème très grave. Les rites. Dieu a instauré le sanctuaire dans le désert, qui plus tard est devenu le temple de Jérusalem avec Salomon. Ce premier temple a été détruit par Nabuchodonosor. Il a été reconstruit et ce deuxième temple, il a été détruit par les Romains. Bon. Qu'est-ce qu'on faisait dans le temple? Des rites. Des rites. Et on sacrifiait. Et alors nous avons nous avons des textes qui sont d'une dureté excessivement grave. Excessivement grave. Voilà, je l'ai ici. C'est Dieu qui parle, hein, dans Amos 5. Je déteste vos fêtes. Vous vous rendez compte? Les fêtes qui ont été instaurées par Dieu. Hein. Je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements culturels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice en commun, en communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes. Mais, que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent puissant. Vous voyez là, le rite formel, extérieur, tout à fait extérieur, et la communion réelle, qui se traduit par une conduite convenable. Je vais vous donner ici deux exemples. La mythologie grecque, ainsi que la mythologie germanique, ont des héros, vous le savez bien, toutes les mythologies ont des héros. Je ne vais pas parler de toute la mythologie grecque, elle est très compliquée, et la romaine aussi. Il y a un homme qu'on appelle... Oh, excusez, j'ai des trous de mémoire. Achille. Bon. Attends, un héros, hein, attention. Achille avait une mère, bien sûr, comme nous tous, et sa mère, qui s'appelle Thétis, maintenant est ici, elle a, à la naissance, elle a trempé son petit garçon dans l'eau du Styx, une fleuve, une rivière. Elle a trempé donc dans l'eau. Ce Styx, cette eau, était réputée donc par son pouvoir à rendre invincible. Ça, c'est bien du païen. Hein. Alors, elle a pris le petit, elle l'a tenu par son talon, elle l'a trempé dans l'eau, elle l'a retiré. Et l'imagerie populaire dit, elle a oublié qu'en tenant le pied, l'eau n'est pas arrivée à cet endroit-là. Donc, Achille avait un tendon faible, d'où l'expression française, le talon d'Achille. Et c'est d'ailleurs par là qu'il est mort. Ça, c'est la mythologie gréco-latine. Bon, maintenant la germanique, à peu près la même chose. Chez les peuples européens, il y a deux grandes tendances qui se rejoignent d'ailleurs, celle qui est allemande et celle qui est nordique. Et le valeureux, là, c'était Siegfried. Moi qui ai vécu la guerre, qu'est-ce que les Allemands, n'est-ce pas? Siegfried, mais c'est le vaillant de tout, n'est-ce pas? Il y a une épée spéciale, etc. Enfin, peu importe. Mais voilà, il avait un dragon, un terrible dragon, qui ravageait tout. Et alors, avec son épée, il a dit, je m'en vais le tuer. Il a tué le dragon Fafnir, c'est simplement qu'une remarque, il s'appelait Fafnir, il a tué le dragon. Le dragon, il avait 7 têtes d'ailleurs, il a perdu énormément de sang, et Siegfried s'est trempé dans le sang. Et il est devenu ainsi invincible. Mais, comme Achille, il y a une feuille d'un arbre qui est dégringolé et qui est venu tomber sur son dos. Où il y avait un petit endroit où il n'était pas invincible. Et évidemment, la mythologie dit que c'est par là qu'il a péri. Siegfried, le vaillant, est mort, une épée qui a pu le percer à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela ? excusez-moi, hein, je vais être très, très franc. Nous avons, nous aussi, des mythes. Comprenez-moi bien, j'ai bien réfléchi. Nous ne sommes pas sauvés par le sang de Jésus. Le sang n'a rien à voir. C'est le sacrifice qui compte. C'est l'exemple qui compte. L'eau du baptême n'a aucun sens. C'est pas l'eau qui rentre. Je suis un ancien catholique, je vous l'ai déjà dit. Et comme ancien catholique, c'est l'eau qui me nettoie de mon péché à la naissance. Il faut tremper l'enfant à la naissance pour enlever son péché originel. Mais non, c'est pas ça le baptême chrétien. C'est pas du tout cela. La question, n'est-ce pas, c'est que avant le rite de le tremper dans l'eau, il y a tout un travail qui se fait intérieur. Et on n'arrive pas au baptême pour quelque chose. Moi, ça me fait redresser les cheveux très peu. Quand je lis une nécrologie d'un ou d'une adventiste dans nos revues, voilà, elle a fait ceci ou il a fait cela, etc. C'est toujours le bien, hein, qu'on raconte, on ne raconte jamais le mal. Et alors on dit, il ou elle a été baptisé à tel endroit par un pasteur tel, un nom. Écoutez bien. Savez-vous que Jésus n'a jamais baptisé? Jésus n'a jamais baptisé. Et Paul, dans une de ses lettres, dit, moi qui dis, pourquoi vous dites-vous là? Je crois que c'est à Corinthe. Moi, je suis un tel. Moi, je suis d'un tel. J'étais baptisé par Barnabas. Mais qui est Barnabas? Qui est Paul? Rien du tout. Ah oui, je me rappelle. Je dois avoir baptisé un ou deux personnes. Enfin, ça n'a pas d'importance. Ça ne compte pas, ça. La personne qui baptise et l'eau, ça ne compte pas. C'est la décision avant. Le long travail interne où l'esprit travaille. Et c'est pour ça que quand on baptise quelqu'un, on dit toujours, mon frère, ma sœur, je vous baptise au nom évidemment de, etc., mais selon votre profession de foi. C'est ça qui compte. C'est ni l'eau, ni la personne. C'est l'engagement. C'est révolutionnaire, vous savez cela. La Sainte-Seine, la même chose. Excusez, hein, je suis peut-être un peu brutal, mais j'ai bien étudié cela. Et ma longue expérience dans l'Église me font comprendre que trop de nos chrétiens se figurent que quand ils mangent la Sainte-Seine, quand ils boivent le jus de raisin, n'est-ce pas, ils ont fait quelque chose. Mais non, ce sont des symboles. Si je viens à la Sainte-Seine pour être purifié, etc. Non, c'est de la blague, ça. Et je tiens à vous dire que nous avons plusieurs cantiques, qui sont tout à fait à côté de la question. Blanc, plus blanc que neige, tout le monde aime bien cela. Lavé dans le sang de l'agneau, mais enfin, vous vous rendez compte, lavé dans le sang de l'agneau, mais c'est Siegfried, ça. Siegfried, il s'est trempé dans le sang du serpent, justement. Ne faisons pas ce d'accord. Ce sont des images. Ce sont des images. Mais je crains que cette image ne soit trop littérale. Les Juifs ont été scandalisés par le discours de Jésus. Il faut que vous mangiez et buviez ma chair et mon sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je suppose que tout le monde ici a fait des études, hein. Peut-être pas tous des études universitaires, mais nous avons tous étudié. Et vous savez très bien que pour réussir un examen, il faut se préparer. Se préparer, c'est étudier. Étudier, c'est bien souvent se retirer dans un endroit calme. Et puis, la matière que l'on a à étudier, il faut se l'approprier. Il faut la digérer. Ah, digérer. Digérer, mais c'est manger. C'est manger. Alors, si ma matière mathématique ou de grammaire, etc., n'est-ce pas, ou de science, etc. Je dois la digérer pour bien la comprendre. Alors, écoutez, ne nous trompons pas de porte. Jésus a bien dit, mes paroles sont esprit et vérité. Donc, ne le prenons pas à l'aide. Retenez bien, je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Alors, dans Habacuc, je lis que le juste vivra par la foi, pas par un rite quelconque, par la foi, car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Et alors il ajoute cette phrase que j'ai écrite en gras, « Si quelqu'un flanche, si quelqu'un s'en va, si quelqu'un quitte, si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi, c'est-à-dire à sa fidélité. » Dans Jean, n'est-ce pas, chapitre 14, et quelques versets, le verset 33 et puis à 36, je lis, c'est Jésus qui parle. Mes chers enfants, Jésus qui parle, hein, je suis avec vous, mais plus pour longtemps. Simon Pierre lui demanda, mais Seigneur, où vas-tu? Covadis, hein, vous connaissez le film Covadis, hein, c'est Pierre, hein, qui demande. Non, c'est dans l'histoire, là, eh bien, on demande à Pierre, n'est-ce pas, qui se rend à Jérusalem, à Rome, Covadis, où vas-tu, hein? Où vas-tu, oui, justement, hein? Et alors, Jésus lui répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. Pierre répondit, et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre maintenant? Je suis prêt, je suis prêt à te donner ma vie pour toi. Vous vous rendez compte? C'est texte biblique, hein, en français moderne, d'après la Bible du Semeur. Tu es prêt à donner ta vie pour moi, dit Jésus. Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié trois fois. Pierre, lui, il est sûr, absolument sûr et certain qu'il peut suivre Jésus. Et nous chantons des cantiques, « Je te suivrai partout, Seigneur. Où tu iras, je te suivrai jusqu'à la mort. » Vous connaissez le cantique, hein, on ne va pas le chanter maintenant, mais c'est ça. Encore une fois, on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. Ici, je fais une petite parenthèse. Vous savez que notre Père, qui est un exemple de concision pour une prière, 4 minutes, pas plus, mais tout est dit. Je ne prends qu'une seule phrase. Pardonne-nous nos offenses. Ça va te presser très bien, hein, ça. Hein. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Mais on oublie que la phrase suivante, elle est catastrophique pour nous si nous voulons vraiment nous l'intégrer. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pas d'off. Écoutez-moi, quand on me donne un coup de poing dans la figure, j'en ai reçu quand j'étais aux études, quand j'étais gamin en tout cas, moi je ne pouvais pas pardonner ça, hein. Et qui peut pardonner ça? C'est beaucoup plus grave, n'est-ce pas, que si on tue un de vos enfants et que vous devez avoir la force de pardonner à celui qui a tué votre enfant. C'est encore plus difficile, cela. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous vous rendez compte? Ne priez plus, hein? Ne priez plus! Vous allez vous mettre dans un sac. Vous allez vous ligoter vous-même. Et vous n'obtiendrez jamais le pardon de Dieu. Parce que vous ne pardonnez pas, nous ne pardonnons pas aux autres. En tant qu'ancien, et on me donnera raison, ceux qui sont anciens, j'ai l'œil ouvert lors de la Sainte-Cène et surtout du lavement des pieds. Encore une histoire un peu plus ou moins hypocrite, excusez, hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de se laver les pieds dans une période, dans une civilisation où les pieds sont très propres, etc. Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a de sens que si on comprend pourquoi Jésus l'a demandé. Il a demandé ça à ses disciples pour qu'ils doivent apprendre à s'humilier, pas seulement en lavant les pieds, bien entendu. Dans ma longue vie, ma femme a été malade, à un moment donné, très gravement malade. Et il y a une diaconesse qui est venue la voir. Elle est morte, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas d'importance. Elle est venue la voir. Je n'étais pas là, moi, j'étais à mon travail. Et alors, elle a remarqué qu'en principe, il fallait faire la vaisselle. Il n'y avait pas encore de lave-vaisselle. Hein. Il fallait laver la vaisselle et il fallait nettoyer ceci, il faut nettoyer cela. Bon, je passe sur le détail. En tout cas, elle est retournée à l'église et cela m'est revenu. Elle a dit à quelqu'un à l'église, c'était pas celle-ci, c'était celle du centre. Comme ça, personne ne se sent touché. Moi, je ne peux plus aller là, qu'elle m'a dit. Moi, je ne suis pas allé là pour nettoyer la vaisselle. Je suis allé là pour parler. Vous vous rendez compte? C'est une diaconesse, hein? C'est une diaconesse qui dit, je ne m'en vais pas là parce que je dois m'abaisser à faire la vaisselle. Et alors on fait le lavement des pieds. Dernière remarque à ce sujet-là. Je me mets toujours à la fin et je regarde les gens qui entrent. Première remarque. Bien souvent, on va toujours vers la même personne. Scène après scène, c'est toujours vers la même personne. Rare, quand il y a un étranger, que l'on va vers cet étranger. Nous, en tant qu'anciens, c'est ce qu'on faisait. Quand on voyait quelqu'un qui arrivait, qu'on ne connaissait pas, on faisait de la demande de pied avec lui. Voyez-vous, il y a une personne qui a dit hautement, celui-là, une expression bruxelloise, je ne peux pas le blairer. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte des choses pareilles? Bon, cette personne, n'est-ce pas, avait l'honnêteté de le dire à haute voix. Mais combien de fois nous n'agissons pas comme cela? Culte formaliste. Le texte dit, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau et que la justice coule comme un torrent puissant. Après avoir dit, je déteste vos fêtes. Une autre remarque. On t'a enseigné dans Michée 6, je terminerai par là. On t'a enseigné aux hommes ce qui est bon et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu laves les pieds, c'est que tu prends la Sainte-Cène, c'est que tu te conduises avec droiture. Que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance ou modestie, tu vives pour ton Dieu. Magnifique, hein? C'est probablement la plus belle parole de l'Ancien Testament. Mais il y a le pendant dans le Nouveau. C'est dans Jacques, au chapitre 1, le verset 27. Et je prends la Bible du Semeur. La religion, la relation avec Dieu, la religion authentique, pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aller à la Sainte-Cène, à faire ceci ou faire ceci. Non. Consiste à aider les orphelins et les veuves. Et tous ceux qui sont malheureux, hein. Et ici on les calme, il y a deux catégories, mais c'est tous ceux qui ont besoin de notre aide. C'est aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Deux textes à voir. Récapitulons. notre mémoire permet de mesurer et d'évaluer notre position et sa valeur par rapport à nous-mêmes, mais aussi en comparaison à nos ancêtres, qu'ils soient nos ancêtres très lointains comme les Juifs, comme nos ancêtres chrétiens du début de l'ère chrétienne ou de maintenant. Notre foi, c'est-à-dire notre confiance, dépend de notre degré de compréhension du message divin. Alors la question se pose. Je suis devant une église que je ne reconnais plus, parce qu'en 10 ans, 15 ans, il y a eu un grand changement. Attention, je suis heureux de vous voir là, et c'est très bien. Mais où sont les autres? S'ils sont partis dans d'autres églises, c'est pas grave. Mais je sais par expérience qu'au moins la moitié qui ne sont plus là ne sont même plus dans aucune église et ne pratiquent plus du tout la religion. C'est ça qui est triste. Alors pourquoi, pour quelle raison un grand nombre de disciples ont quitté Jésus? Ils n'ont pas compris le langage spirituel employé par le maître, ils n'ont pas su s'élever au niveau spirituel et ils sont restés collés, vraiment collés à la terre. Alors, je vous ai parlé de la femme samaritaine. Dans Marc 10, au verset 38, je lis ceci. Jésus à ses disciples, Jacques et Jean, qui lui ont demandé, vous savez ce qu'ils ont demandé? De pouvoir siéger l'un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus quand il sera dans le royaume. À part l'humilité, qu'est-ce que c'est? Et alors Jésus répond, n'est-ce pas? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez? Et ici, je m'arrête un instant. Quand nous prions, est-ce que ça vient tout seul, sans réfléchir? Ou bien est-ce que nous comprenons ce que nous demandons? Vous savez, quand du haut de l'estrade, ici, on dit « Seigneur, je te prie, n'est-ce pas, pour les pauvres malheureux ?» C'est de la blague, hein? C'est de la blague. Ça ne sert à rien, une prière comme ça. Parce que si je prie pour quelqu'un de bien précis, je ne le dis pas seulement à Dieu, mais j'agis selon les circonstances, bien entendu, auprès de cette personne-là. Je ne vais pas lui dire qu'il se trompe, etc., ce n'est pas ça. Mais il doit sentir que j'ai de la sympathie pour lui, c'est ça que ça veut dire. Alors, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez, dit Jésus à ses deux disciples. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Oui, lui répondirent tous les deux, nous le pouvons. Encore un bon coup. En entendant cela, les 10 autres, et nous aurions fait la même chose, les 10 autres furent, comment vais-je dire, tellement scandalisés, ils s'indignèrent. Alors Jésus les appela, tous les 12 autour de lui, et il leur dit, vous savez ce qui se passe dans les nations autour de nous. C'est aujourd'hui, c'était du temps de Jésus, mais encore plus aujourd'hui. J'ai remarqué, je disais à ma voisine qui est avec moi ici, je lui disais, avez-vous remarqué quand on regardait la télévision, quand il y a des G7, etc., on s'embrasse maintenant, on s'embrasse. Vous voyez Guillaume II, n'est-ce pas, d'Allemagne, qui embrasse le président Lebrun de la France? Vous voyez cela? Non, ils s'embrassent maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'ils font par derrière? Vous savez ce qui se passe, Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et ces grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa rançon, en rançon sa vie, pour beaucoup. Excusez-moi, j'ai été peut-être un peu brutal à certains moments donnés, mais c'est une vérité que trop souvent on essaye d'occulter. Merci.